boy.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette penultimate édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Aujourd'hui, on fête la fin de l'année. On fête une année assez particulière, une année assez occupée, mais une année assez floue si on se fie aux commentaires de nos collaboratrices et tout le monde en général. C'est comme une espèce de drôle de fardeau d'avoir à faire un year-ender, parce que tu te retrouves à faire, et c'est essentiellement pour vous expliquer un peu l'ambiance dans laquelle on est depuis la dernière demi-heure. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2017? Megan qui envoie la question qui tue avec le « qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2017? » Puis qu'on a tout un peu fait. Hey, je ne sais pas.
Oui, c'est flou, c'est loin, là. Je sais, il fait froid en janvier, je sors pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en... au mois de janvier.
Ben c'est ça, exactement. C'est ça. On a récupéré de la fin de 2016.
Et en bref, on a bloqué à janvier, puis on n'a pas fait le tour de l'année.
Non, mais l'élection de Trump, c'est en janvier, c'est ça?
Non,
c'est en 2016.
Oui, c'est ça.
Mais pourquoi c'est marqué qu'il est président depuis le 20 janvier 2017?
Il est rentré en fonction en 2017.
Voilà. Fait qu'en janvier, c'est ça qui s'est passé, triste.
Ouais, mais tu t'en rappelles-tu de son assermentation?
Mais on essaie tous de l'oublier un peu aussi, je
ouais,
pense.
C'est vrai ça.
Ça a été ça, 2017, en fond. Oublier Trump.
Un effort très concret à essayer d'ignorer ce qui est en train de se passer dans le Sud. Vous avez entendu Sylvain Lavallée.
Bonjour.
Bonjour, Megan aussi.
Allô.
Mon nom est Megan Bédard et Stéphanie Roussel.
Salut.
Ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a terminé, on a commencé l'année en janvier avec notre émission des grands décédés 2016 parce que c'était vraiment une année de la faucheuse. Ça a été quand même assez catastrophique ce qui s'est passé en 2016 avec Carrie Fisher, avec Prince, avec David Bowie, ainsi de suite.
Une hécatombe.
Une hécatombe, merci beaucoup. Et je me suis dit qu'on pourrait comme faire le versant de ça et dire bonjour à Félicie, qui est la naissance de 2017 à ce qu'elle traite Pop en Stock. C'est la fille de Maxime Raymond, le directeur des éditions Ta Mère, qui abrite notre collection Pop en Stock, qui a publié Un Noël cathodique, qui a été fait par Stéphanie Roussel, qui est ici.
En 2017!
Exactement! Exactement.
En
fait, débuté en 2016... Parce que mon article a pris tellement de temps à écrire, acheminé en 2017. Je prends entière responsabilité pour ça. Donc, Megan, c'est un peu toi qui t'étais comme « Ah, je vais faire la liste de tout » parce que t'es l'esprit analytique de l'émission, t'es la personne.
Parce que j'ai beaucoup d'anxiété, puis moi, ça me stresse de pas être préparée avant d'arriver ici.
T'as-tu un autre bouteille?
Non, mais j'ai amené une bouteille de mousseux. Est-ce qu'on le voit sur la caméra?
Ben oui, présente-la.
C'est le mousseux bulle de nuit, le mousseux officiel d'Occupation Double, qui fait son retour en 2017 depuis je sais plus combien d'années de hiatus. Je pense que c'est... Je veux pas dire...
10?
10 ans, ouais, c'est ça.
Ça n'a pas rapport. Je sais pas, j'ai aucune idée de quoi
mais
je parle.
Mais il me semble que c'est quelque chose... Non, il me semble que ça fait plus longtemps. Attends, vérifier sur les internets pendant que j'essaye d'ouvrir ça... Mais oui, voilà, donc j'essayais d'amener des gens ici en tant que chère directrice de la programmation en leur disant que j'allais leur acheter du mousseux et j'ai rempli ma promesse d'acheter du mousseux. J'ai acheté des verres, OK? T'as trouvé?
4 ans.
Ça, dans ma tête, ça paraît comme 10 ans. Fait que c'est ça, célébrer le retour d'Occupation Double et la fin de l'année et aussi... Je vais mentionner rapidement parce que j'aime beaucoup les chiffrons. on voit ce que je m'en vais avec ça. C'est le 160e épisode aujourd'hui.
Oh, very nice.
De Pop en stock. Donc, on va célébrer un chiffre rond, le retour d'Occupation Double, la fin de l'année 2017. Et.
Ben, le retour et la fin aussi, là, parce que ça s'est terminé la fin de semaine dernière.
Occupation Double, oui.
Ouais.
Il y a la grande finale. Oh.
C'est sur le Pop It. Pop It, G-Man. Ben, on l'a. Tout est à la bonne place.
Puis, si on veut aller avec la grande finale d'Occupation Double, c'est quand même une figure pop qui gagne la maison cette année, puisqu'Adamo est dans le duo, je pense, Gros Big, qui est un duo hip-hop populaire sur le web. Donc, grande figure populaire qui remporte dans une télé-réalité tout aussi populaire, j'imagine.
Ah, je pense que... Oui, c'est très populaire, l'Occupation
Double. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est quand même... Puis c'est un peu la manière que je voulais amorcer l'émission, mais bon, on va le faire de toutes les manières possibles. Il y a ce qui s'est passé en 2017 par rapport au monde, qui a été très, très bien synthétisé par Sylvain. Merci beaucoup de nous dire qu'on a passé l'année au complet à essayer d'ignorer Trump du mieux qu'on peut.
On n'a pas réussi, je pense.
Non, mais pas du tout. Non. Il fait quand même la une continuellement. Et il a passé dangereusement proche à être personnalité de l'année pour une deuxième année d'affilée. Mais
en même temps, celles qui ont gagné la personnalité de l'année du Times, c'est pas une seule personne, c'est un mouvement. Donc le mouvement #MeToo. Donc je trouve que c'est un très beau revirement du balancier. Qui s'est déroulé en 2017. Puis je pense que l'année se fait un peu sous ce signe-là, une espèce de virement du balancier comparé à 2016, par exemple, où Trump a fait sa montée en popularité. Puis là, ici, on a MeToo qui gagne, des dénonciations. Là, on est un peu pêle-mêle, mais ça va. Ouais.
Mais c'est quand même le gros événement, en tout cas, de la fin de l'année 2017, ouais. Là, à partir de l'affaire Weinstein jusqu'à aujourd'hui. Là, il me semble que c'est pas mal ce qui a dominé dans la culture populaire. En fait, toutes ces dénonciations-là qui ont eu lieu. Donc, oui, ça a été probablement le mouvement le plus concret pour essayer d'ignorer Trump si on continue sur...
Ouais, mais ignorer tout en étant très conscient qu'il est là.
Oui.
Je veux dire, si on peut dire, une ignorance active, là, que t'es comme en train de pas regarder le gros Cheetos dans la pièce.
Mais c'est aussi fait taper par la fin de la vague du mouvement MeToo, parce que la semaine dernière, il y a eu officiellement des allégations contre lui publiques, et qui, évidemment, il a nié le tout dans les médias, à son habitude, mais...
Et c'est un peu... C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça vient un peu concrétiser, à mon avis, la dynamique de qu'est-ce qui s'est passé en 2016 par rapport à qu'est-ce qui s'est passé en 2017, par rapport à potentiellement qu'est-ce qui va se passer en 2018. Puis je veux pas trop tomber dans la prévision, mais pour reprendre l'image que j'avais utilisée à l'extérieur, hors d'ombre, il y a des gens qui avaient... En fait, 2016, la figure populaire la plus récupérée, c'était le dumpster fire. Cette idée-là que tout est en train de brûler, puis on a juste crissé le feu dans une binne à vidange. Puis c'est à peu près l'image synthèse de 2016. Puis la 2017, c'est un peu... C'est ça que je disais tantôt. C'est comme si la fumée qui sortait de ce container-là sentait les bangs chauds.
C'est agréable.
C'est ça. C'est comme tu rentres, t'es comme... Aïe, il y a comme un gros feu de poubelle, mais... Ah, mon enfance. C'est pas extraordinaire. Puis là, tu te retrouves dans un espèce de moment de Madeleine Proustienne assez bizarre.
Mais...
Oui.
J'allais rebondir là-dessus, surtout que MeToo, je pense que ça l'a autant marqué l'imaginaire de 2017 par rapport aux années passées, parce qu'au Québec, on se rappelle que c'est le troisième automne de dénonciation par rapport aux agressions sexuelles. En 2015, il y en a eu un surtout centré pour les professeurs d'université. Oh, oui. En 2016, il y a eu agression non dénoncée qui était mondiale. Puis, là, en 2017, on a le mouvement MeToo, qui est peut-être le premier mouvement à avoir des répercussions concrètes et dans les embauches, si on veut, mais comme il est parti de Hollywood, à avoir des répercussions concrètes dans les choix de production de films, dans l'imaginaire populaire au complet. Donc, on n'est plus juste dans une question politique de dénonciation comme il y a eu les années précédentes, mais on est dans une restructuration de la culture, du monde culturel. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on a encore plus l'impression que ça marque 2017, alors qu'on oublie un peu, moi je les oublie pas, mais certains oublient un peu qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes. Mais là, quand on se dit que Netflix annule des productions ou change complètement le scénario, que c'est comme...
C'est ça, enlever toutes les... mon Dieu, j'ai oublié son nom.
Mais Kevin Spacey qui a été re-shooté au complet. C'est pas Netflix, par contre, c'est Ridley Scott.
Mais il y a tous les shows de... l'humoriste
Louis C.K.
Qui ont été retirés de Netflix le lendemain des allégations et de ses excuses. C'est ça, il y a eu des actions très concrètes qui se sont faites dans des laps de temps très rapprochés entre les dénonciations et c'est ça, les conséquences. Les conséquences étaient vraies et il y a eu une vague de peur et on était très contente de ça.
Ben oui, c'est ça. Puis c'était là où l'analogie avec le dumpster fire, mais à mon avis, intéressante, c'est que dans le concret, les choses ont cramé, mais l'imaginaire s'en est sorti bonifié en quelque sorte. T'sais, je prends l'exemple de House of Cards. Le renvoi unilatéral et l'excision complète de Kevin Spacey dans l'imaginaire américain fait en sorte qu'on va avoir une sixième saison qui est uniquement concentrée sur Robin Wright. Fait que tu sais, c'est comme un espèce de moment où l'imaginaire se... Et quand je dis l'imaginaire, je parle des productions culturelles, se porte mieux de cette manière-là. Tu sais, c'est comme tous ces trucs-là très concrets que vous décrivez amènent des conséquences qui bonifient l'imaginaire et qui rendent l'imaginaire plus intéressant. Mis à part, certaines embûches par rapport à l'univers des films de DC, notamment, là, qui ont souffert de tous ces problèmes-là, mais pour ça n'a pas réglé quoi que ce soit. Il fallait que je laisse un mot par rapport à ça.
Ça, mais aussi les grosses productions cinématographiques, comme la culture populaire en général, avance à pas de tortue, là, on va se le rappeler aussi, mais 2017, c'est quand même l'année du film de Wonder Woman. Et l'annonce d'un film de Batgirl.
Oui, et puis de Black Panther aussi, qui s'en vient bientôt.
Captain Marvel aussi. C'est pour ça que c'est une année qui sera probablement... Il y aura beaucoup de récapitulatifs négatifs, mais nous, en termes d'équipe de Pop en Stock, on ne peut que voir...
On est comme dans un épisode de transition entre deux épisodes importants.
Ben,
dans une série, là, t'as toujours l'épisode un peu plate, milieu, où ce que t'es comme, je sais qu'on essaie de s'en aller vers quelque chose d'autre, mais il y a rien qui se passe très, très concrètement.
Je le vois pas comme ça.
On est dans un épisode de feeling.
Moi, je vois plutôt que les gens qui se concentrent sur l'imaginaire se portent très bien.
Non, mais je veux dire, c'est pas négatif, parce que les épisodes de transition sont importants, parce qu'ils mènent à quelque chose de plus grand que ce qu'ils sont en réalité. Donc, on dit que c'est comme on place les pièces ici. Il y a quelque chose qui se déroule, il y a quelque chose qui se passe, il y a des films dont les protagonistes sont...
il est pas super, mais je l'ai fini.
Il y a des actions concrètes qui se forment, mais c'est pas encore assez généralisé, je dirais, pour qu'on crie victoire, là.
Non, pas du tout. Mais là, Trump est encore au pouvoir, puis il se passe encore, on est encore dans un monde...
Au sens où on place nos pièces pour...
Mais ça prend du temps aussi, je veux dire, une production culturelle, ça se fait pas du jour au lendemain, comme aujourd'hui qu'on commence à engager plus de femmes ou d'acteurs noirs, par exemple, ben, je veux dire, on verra pas les résultats en 2017. C'est 2018-2019 qu'on va voir s'il y a vraiment eu des changements importants qui ont été apportés grâce à ça, là.
Ouais, puis c'est drôle, parce que pour rajouter à ça, j'ai l'impression qu'on est plus, tu sais, comme les consommateurs de culture populaire sont comme les lecteurs de Game of Thrones avant que la saison 3 commence à jouer sur Netflix. Sur Netflix? Sur HBO. Ouais. Tu sais, c'est comme tout le monde est juste, j'ai super hâte de voir la saison 3. Nous autres, on est comme on sait qu'est-ce qui arrive. C'est fucked up.
T'as pas out.
C'est ça. Puis il y a comme un moment, puis ça vient un peu encapsuler plein de trucs. C'est que j'ai l'impression que l'imaginaire a eu raison sur le concret cette année. C'est eux autres qui s'en sortent victorieux. C'est les personnes qui ont pas participé au monde, au dumpster fire, essentiellement. Plus ou moins. Je sais que c'est assez complexe comme affirmation.
C'est ceux qui ont jeté les beignes dans le dumpster fire pour que ça sente bon.
Genre.
Parce qu'on s'entend que aussi l'imaginaire a une certaine influence sur la manière dont on agit dans notre vie quotidienne, on peut pas le nier, et la manière dont on pense. Donc peut-être que c'est ça, tout ce tournant-là plus progressiste dans la culture pop, ça va avoir un impact éventuellement. Espérons-le, j'espère.
Ben, il va se faire par la culture pop.
Oui.
C'est un peu comme ce que tu dis, Sylvain, c'est que, tu sais, ces personnes-là, le lendemain des élections, ont fait comme, OK, ben là, on a un 4 ans, là.
C'est ça.
On travaille. Puis le fruit des récoltes n'est pas encore engendré. On est encore dans un climat qui est très destructif. Puis, quitte à juste se fier à la thèse de la dernière saison, la plus récente saison d'American Horror Story, on constate que, tu sais, il y a un énorme potentiel face à la destruction. Puis même, tu vois, je reviens à Game of Thrones, « Chaos is a ladder ». Tu sais, la phrase de Littlefinger, mm-hmm. qui est devenue un leitmotiv pour l'année, tu sais. Tant que tu déstabilises les gens, tu es capable de reconstruire soit quelque chose à ton image ou soit quelque chose à l'image de qu'est-ce que tu veux qui te
ressemble ou qu'est-ce que tu aimerais voir.
Les choses qui suivront auront ton ta ressemblance. Mais au final, je pense que c'est une façon très altruiste de dire ce monde-là, je suis bien solide, comme vraiment horriblement. Puis il y a encore, je pense que j'aurais très très peur si 2017 avait pas eu une portion d'imaginaire. Parce qu'il y a personne qui aurait pu à la fois entretenir un espoir, mais aussi s'équiper d'un safe space.
Oui,
fait que je suis comme très content que l'imaginaire se porte bien. Puis quand je dis l'imaginaire se porte bien, je parle que les comic books, ça va très très bien par rapport à la diversité, par rapport à la représentativité, les personnages, la diversité forte aussi. C'est pas juste la diversité pour le bien de l'être. Tu l'as souligné, Wonder Woman, c'est le seul succès filmique unilatéral, on dirait, de DC.
Ouais.
Ouais, de 2017 aussi, pratiquement. Ouais. Jusqu'à Last Jedi, qui...
C'est un film de Star Wars.
C'est ça, comme on n'a pas le choix. Là. On fait juste se plier.
C'est quand même Rey qui est la figure centrale maintenant de Star Wars, donc on est un peu...
Ouais, c'est vrai, absolument.
C'est vrai.
Ouais, fait que tu sais, c'est comme... Moi, il y a un contrer ce miasme-là, puis tu sais, je veux dire, sans trop vouloir creuser dans le politique, peut-être que 2018 va nous amener la présidence de Pence. Puis ça pourrait être encore pire.
Ouais, on veut pas ça.
C'est ça, tu sais, Empire Strikes Back nous a fait très bien comprendre les arcs narratifs, puis on est comme moi je sais que j'ai la crise de chienne qui se passe de quoi à Trump. J'ai vraiment peur qu'il arrive quoi que ce soit.
Ben parce qu'on est vraiment dans une polarité 2017, si l'imaginaire se porte bien, on est quand même dans un imaginaire divisé, là. Il se porte bien d'un côté, mais il se porte très très mal de l'autre. Fait que c'est la montée
Il y a
un backlash assez énorme. T'sais, c'est une année de violence pour toutes les communautés non représentées.
Non,
par...
chaque année est une année de violence pour les communautés marginalisées.
Oui, oui, tout à fait.
Je veux dire que 2017 est plus violent que d'autres.
Je ne vais pas te contredire.
On peut garder l'espoir aussi qu'une plus grande diversité dans la représentation imaginaire peut amener un changement des mentalités.
Ah.
Espérons-le.
Assurément. C'est ça, changes. Étant peut-être un peu plus optimiste, là. Mais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au début, tu commences par, un peu comme on parlait tantôt, tu sais, Netflix qui fait de plus en plus de productions pour parler à des communautés qui étaient jadis marginalisées, pour être capable de leur donner une voix, aussi petite qu'elle soit au début, mais qu'elle, au moins, ait une place grandissante, là. Ouais, bon. Pardon, je me suis étouffé.
Oui, c'est ça, mais il y a eu justement The White People, qui était un Netflix original, Master of None aussi, qui aborde souvent ces questions-là, surtout dans l'univers du showbiz. Là. Donc, est-ce qu'un acteur indien doit toujours faire les chauffeurs de taxi? Non. Donc, c'est quand même un thème assez récurrent.
Ben, il y a eu aussi le documentaire sur Apu dans Les Simpsons, The Problem with Apu.
Ah, oui, j'avais pas
parlait
vu
ça. De ça. Oui, de plus en plus de conscientisation, de plus en plus d'éveil. On peut-tu dire que ça s'est passé? Parce que c'est ça, bon, vous voyez que j'allais mener l'émission avec comme qu'est-ce qui s'est passé au Québec, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, mais bon, on va scraper ça tout de suite. Ne nous faisons pas d'idées. Y a-tu une plus grande conscientisation au Québec ou comme 2018 va être l'année au Québec que 2017 l'a été pour le monde?
Oh boy.
Ben, c'est le trip à 3 qui sort bientôt, là, donc ça donne pas...
ça donne pas d'espoir. Mais je dirais qu'on est toujours à la frontière, peut-être, au Québec. Tu sais, si on revenait à Hanover avec Occupation Double, puis si on regarde les personnes qui faisaient partie de la sélection, les candidats d'Occupation Double, c'était majoritaire, très, très, très majoritairement des Blancs. Puis, deux personnes qui ont tenu des propos racistes en ondes en disant le N-word. Et
c'était dans Occupation Double la nuit, donc où il y a des caméras cachées, tu peux regarder en direct sur Internet. Donc c'était pas sur la télé câblée, mais c'était quand même accessible à tout le monde sur Internet. Là. Donc.
Mais okay. La réponse était pas d'exclure les candidats, mais il y a quand même eu une discussion qui a été engrangée. La production a dit que c'était inacceptable.
acceptable, même si c'est un peu eux qui avaient choisi de mettre ça en ondes.
Ouais, c'est ça.
Donc, on reste avec les problèmes, mais on sent que petit pas, on s'en va peut-être vers une conscientisation. En même temps, c'est difficile à dire avec la montée de la meute et ces choses-là. Donc,
tu veux dire les furries, là?
Non, la fausse meute.
La fausse meute.
La fausse, c'est ça, exactement.
La vraie meute, c'est les furries.
Donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer dans l'imaginaire, mais j'ai pas senti des très, très gros changements au niveau du Québec.
Mais le Québec a toujours une espèce de pas en arrière où il y a tout le temps une espèce de dynamique entre il faut protéger notre culture, alors on s'éloigne de la culture mondiale, alors on s'éloigne d'espèce de gros dialogue justement sur l'inclusivité. Ouais. Là.
Ça bouge lentement au Québec. En général, les choses, il me semble, là, je pense que c'est à cause des institutions, beaucoup, ça prend beaucoup de temps à réussir à juste passer un projet. En tout cas, au niveau du cinéma, là, si tu veux faire un film, tu en as pour plusieurs années avant d'aboutir avec un film fini. Donc, si tu prends aujourd'hui conscience de la situation, ça va aller en 2040 avant qu'on voit ton film. Là, donc,
c'est ça, mais la raison polémique sur la question du bonjour, hi, nous prouve que le Québec n'est pas nécessairement ouvert à ça. Oh oui, c'est ça.
Donc, l'imaginaire se porte bien peut-être ailleurs, parce que j'ai pas d'exemple. En tout cas, toi, t'as-tu un exemple ici qui est d'un film ou d'une émission de télévision qui nous...
Non, ben, il y a eu Féminin, mais c'était pas cette année. Il y a eu les Simone, il y a eu. Non, c'est, ben, malheureusement, pas des trucs que je suis comme, oh my god, ils ont fait ça. Non. Non.
Ah,
non, mais on peut toujours réécouter Le cœur à ses raisons.
Il y a eu des choses. C'est cette année qu'il y a eu ceux qui font les révolutions. Donc, la première canadienne, la première actrice trans canadienne à être nominée à un prix. On a eu la première autochtone à passer à la télévision avec Natacha Canapé-Fontaine à Unité 9. Je pense que l'émission est sortie, donc on est encore en 2017. Donc, il y a eu des petits changements. Là. On va les noter. Surtout parce que c'est deux artistes extraordinaires.
Puis on pourrait potentiellement s'attendre à plus de 2018 que qu'est-ce qu'on a vu en 2017.
Bon, on va espérer.
Mais surtout que c'est drôle, parce que est-ce que c'est cette année... Non, en fait, le 2000... Au Québec, est-ce que 2017 de Québec est le 2016 du restant du monde?
Je sais pas, hein?
Parce que nous autres, on a comme perdu Richard Dujambe.
Ouais. C'est ça qu'on a pris un gros pas en arrière.
Ouais. C'est comme des drôles de...
C'est tellement on sort du coq à l'âne.
Tu trouves?
Mais j'adore ça.
Moi, je trouve ça ultra cohérent, ce qu'on est en train de faire.
Mais moi, c'est ça mon timeline dans ma tête de 2017. C'est juste des flashs. Je sais pas c'était quand, je sais pas c'était où.
Ça s'est passé.
Ben oui. moi, je faisais le saut avec la mortalité pour que Sylvain puisse nous parler de
Jerry.
Ben oui, parce que toi, tu venais de parler des décès.
Juste dire que j'ai trouvé un site avec tous les décès, fait qu'on va pouvoir faire une liste.
Tous les décès, oui, il y en a eu beaucoup. J'avais oublié que David Bowie, d'ailleurs, était en janvier 2017.
Ah oui, OK. Ça veut dire que c'est pas un 2016, c'est un 2017.
Non, c'est bien janvier 2017.
Ah, ben là.
Me semble, en tout cas. Son album est sorti début janvier, donc ça devait être...
Il est sorti, très, très près de...
Il est mort 3-4 jours après la sortie de l'album. Donc,
c'était pas l'année dernière?
À moins que ce soit janvier 2016.
C'était 2016, oui.
Parce que vous l'avez nommé tantôt, donc je sais pas. Moi aussi, ma chronologie...
Ah, il est mort janvier 2016, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça.
Oui, pardon. Okay. Oui. Oui, ça fait bien plus qu'un an.
Oui. Mais pour vous juste rappeler rapidement, on pourrait faire un à la fois, parce que Jerry Lewis est mort en janvier, mais il y avait aussi John Hurt et Bill Paxton,
C'est
vrai, Bill Paxton.
C'est ça, qui sont morts en janvier. Chuck Berry, c'est Roger Moore, Adam West.
Le meilleur James Bond, le meilleur Batman.
Le meilleur Batman et le meilleur James Bond nous ont quittés en 2017. Hugh Hefner est mort. C'est pas mal ça. Et évidemment, Jerry Lewis.
Jonathan Demme aussi.
C'est de ça que tu voulais parler, mais oui.
Oui, ben oui, les deux, moi, c'est en tout cas au niveau du cinéma, c'est les deux qui m'ont le plus marqué. Là.
Ouais.
Je pense bien. Puis il y a un lien quand même un peu entre les deux, parce que pour moi, c'est deux formateurs de communauté, en fait, d'une certaine manière, deux personnes qui nous montraient comment se lier à l'autre. C'était qui meurt en 2017, il y avait quelque chose de presque pas prophétique, mais en fait, pour moi, c'était quand même important dans l'année. Dans le cas de Lewis, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le cinéma, qui est le cinéma lui-même. Le cinéma est inscrit jusque dans son corps, en fait. Et souvent, ça prend des tournures éthiques, en fait, dans la manière qui joue avec son corps et où en fait, le défi, c'est tout le temps de synchroniser l'image avec le son. En fait, il est très réputé pour ça, pour faire des scènes où son corps, en fait, va jouer la musique qu'il joue, comme si c'est son corps qui émettait la musique qu'on entend sur la bande-son. Et donc, la manière de lier l'image au son, en fait, c'est pour lui une manière aussi de sur quand il joue avec Dean Martin, par exemple, c'est une manière de lier deux êtres ensemble, donc d'essayer de créer une relation éthique qui passe par la texture même du cinéma. Voilà, donc ça, et Jonathan Demme, lui, en fait, aussi, il avait cette idée-là de rassembler des communautés, en fait, dans ses films, de rassembler le plus grand nombre de genres cinématographiques possibles, de rassembler le plus grand nombre de communautés possibles dans le même plan. Donc pour moi, c'était deux artistes, c'est ça, qui jouent beaucoup sur comment créer une communauté, comment rassembler des gens. Enfin, donc, c'est pour ça que je voulais les soulever. Et Jerry Lewis, peut-être particulièrement, parce que c'est un génie dont on parle assez peu, là, qui a la réputation d'être juste aimé par les Français, bizarrement, même s'il était ultra populaire aux États-Unis jusqu'à sa mort, en fait.
Ouais, il y a eu comme un 10-15 ans où c'était... Je pense que c'est les Simpsons qui ont parti ça.
Oui, je sais pas si c'est juste la France qui comprenait. En fait, ouais, c'est un cliché nord-américain qui a l'air de venir de la critique aussi un peu quand même. De certains milieux d'élite qui comprenaient, qui aimaient plus ou moins les simagrées enfantines et naïves de Jerry Lewis, qui est souvent ramené à quelqu'un comme un enfant. Puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu inconfortable de voir Jerry Lewis embrasser une femme, par exemple, vu qu'il y a tout le temps l'air d'un enfant, d'un idiot un peu. Donc, il y a quelque chose d'assez oh, wow. malsain.
J'ai jamais vu ça.
Mais en fait, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, avec Chaplin et Tati et Keaton et tout ça, c'est un des grands génies de l'humour, de l'humour du comique américain, cinématographique, en fait.
Puis c'est-tu à peu près en 2017 que c'est peut-être plus vers 2016-2017 où il a commencé à faire surface les dernières ou les seules bobines qui existeraient de The Day the Clown Cried.
Il me semble qu'on en parle depuis quelques années. Ouais. Mais c'est ressorti au moment de sa mort, évidemment. Là, mais
qu'on avait trouvé une demi-heure ou un truc comme
oui,
ça.
Oui, c'est ouais. ça, ouais, qu'on avait retrouvé. Mais ça, je pense que c'est un film qu'on verra jamais.
Pour les gens qui ne seraient pas au courant de ce qui s'est passé avec ça, c'est que Jerry Lewis avait fait la pré-production et
il avait tourné. Le film est fini.
Au complet.
Le film est terminé. Il l'a caché après l'avoir terminé. Il veut pas le montrer. Il joue un humoriste dans un camp de concentration, en fait. Là. C'est comme La vie est belle, là, pratiquement.
Ouais, mais qui est engagé pour amener les enfants dans les chambres à gaz.
Oui, exactement.
C'est le Pied Piper de Auschwitz.
Ouais. Et donc, après avoir fait le film, il s'est dit « Ben, je suis pas sûr que c'était une bonne idée. » Et puis, il l'a caché.
Ouais,
Donc, c'est ça. Mais on peut pas savoir si c'était oui ou non une bonne idée. Ben, c'est sûr que ça a l'air un peu douteux, dit comme ça.
Oui, c'est vrai. Ouais, ben, on espère que le film avait des plus grandes sensibilités que ça, surtout que, bon... quand même quelqu'un de cette communauté-là, ça fait que je pense pas qu'il serait mis...
Oui, non, en fait, j'ai assez confiance en Jerry Lewis, mais bon, c'est quand même un sujet pour le moins difficile, donc...
Absolument, absolument. Puis il reste beaucoup de chemin à faire, puis c'est drôle parce que Demme n'est pas quelqu'un que disons que c'est pas une grande célébrité du cinéma. Mais...
Non, à part Silence of the Lambs puis Philadelphia, c'est deux gros succès des années 90. Il est passé pratiquement inaperçu jusqu'à sa mort.
Mais sa mort a pas passé inaperçu. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand il est décédé, on dirait que il y a eu un moment où tout le monde a fait comme « Ok, ça là, vous le savez peut-être pas à quel point c'est tragique et important, mais ce décès-là, à la manière de Jerry Lewis aussi, on dirait que comme c'est des décès qui nécessitaient non pas explication, mais comme « Wow! » Quand David Bowie meurt, tout le monde comprend, mais là, Jonathan Demme meurt, laissez-nous vous expliquer un peu qu'est-ce qui vient de se passer. Là.
Mais tu sais, dans le cas de Lewis, c'est un petit peu plus compréhensible vu qu'il a rien fait depuis 20 ans à part ses télétons. Mais Demme, je veux dire, il produisait encore des films. Rick and the Flash, c'est son dernier film, je pense. Ça fait deux ou trois ans. Mais en tout cas, c'était magnifique ce film-là.
Ah ouais, le truc avec Meryl Streep.
Oui, c'est vraiment surprenant. Ça, je m'attendais absolument à rien. Puis c'est extrêmement beau. C'est toujours très humain en fait ces films, même quand il prend un sujet qui a l'air très conventionnel, très mellow cheap, finalement, il s'en sort avec une humanité qui est vraiment magnifique et qu'on voit très peu au cinéma. Oui, donc c'est ça. Donc Demme, pour moi, il était important jusqu'à sa mort, mais oui, c'est ça, on s'est réveillé au moment qu'il est mort.
Oui, essentiellement, ouais, de juste faire « wow, wow, c'est pas juste le gars qui a fait Silence of the Lambs ».
Oui, puis on a ramené ses films des années 80, qui à l'époque, je pense, dont on en parlait peut-être plus. En tout cas, moi, je savais pratiquement pas qu'est-ce qu'il avait fait avant Silence of the Lambs.
Ben oui, puis ils ont fait un Criterion de Something Wild, un enfant de même. Là.
Oui, ça fait quelques années, ça, c'est vrai.
OK,
oui.
C'est bon, OK.
Mais oui, c'est ça, donc on dirait que oui, c'est tout ça ressorti d'un coup, oui.
De suite à... Mais je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très important que ça soit pas juste cette personne-là est décédée. Puis que les gens... Tu sais, comme... Alan Rickman, quand il est décédé, il y a eu comme une espèce de grosse vague par rapport à, au rôle qu'il a joué dans Harry Potter. Tu m'excuses?
Die Hard.
Qui joue?
Le professeur Snape.
Merci, exactement. Ouais, ouais. C'est ça. Mais pour moi, c'est le shérif de Nottingham, là.
C'est Hans Gruber.
C'est ça, mais c'est tellement générationnel. Mais je pense que le fait aussi que Harry Potter avait un si gros fandom a fait que ça l'a fait une grosse vague quand Alan Rickman est mort, parce que c'est un personnage super important de la franchise. Fait que, comme nécessairement, quand t'as des milliards quasiment des personnes qui réagissent, tu réagis avec eux aussi.
Ah oui, non, mais je suis pas contre le fait que ça a été associé de cette manière-là, mais moi, je me rappelle d'avoir fait comme... Oui, mais c'est Sheriff of Nottingham, man, il est malade.
Mais c'est aussi un peu comme quand Christopher Lee est mort, c'est chacun avait sa vision de Christopher Lee aussi.
Il y a autant de Christopher Lee que de personnes qui le... Qui étaient en deuil. C'est vrai. Mais c'est là où c'est... Bon, au moins 2017 n'a pas été comme une grande hécatombe pour des figures qu'on devait expliquer. Mais un peu, oui, parce que tu dis Roger Moore, puis tout de suite, j'ai fait comme c'est le meilleur James Bond, puis je sais que je vais me faire caca sur la tête.
Il y a déjà des commentaires.
Exactement. Puis Adam West, c'est la même chose, tu sais. C'est comme quand tu dis qu'Adam West, c'est le meilleur Batman.
Mais ça, c'est une évidence, non? C'est pas...
Exactement.
Ouais. Mais ça dépend aussi de. Comment les gens imaginent ces figures-là, James Bond et Batman, dans leur tête. Peut-être qu'il y en a qui, pour eux, le meilleur Batman, c'est...
Dis-le pas.
Michael Keaton.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est correct, pour t'as eux, c'est pu ça. Dire pire, c'est correct.
Oui, mais tu sais, quand t'es né avec les Batman à la télé, c'est sûr que c'est Adam West qui est ton Batman. Moi, ça l'a jamais changé.
Ouais, mais non. Toute personne...
Puis ça dépend de ta conception du personnage. Moi, personnellement, j'ai jamais vu les émissions... la série télé avec Adam West. J'ai vu le film.
OK, on termine l'émission immédiatement. Et tu t'en viens chez moi. Je remercie Sophie Croteau de m'avoir fait des copies de toutes les Batman. Merci, Sophie.
C'est bon, on va faire un marathon à Noël.
T'en as aucune idée. C'est tellement bon.
Okay. Si on les écoute en français, on peut les écouter avec tes enfants aussi.
On les écoutera pas en français. Non, c'est ça, malheureusement.
Mais le film en français, il est hilarant. Là. C'est une excellente traduction.
Tu parles Dark Knight Rises?
Non, le Batman de movie. Batman,
Look. Non, oui.
Oui.
Oui. Et pour honorer, il faut aussi que vous écoutiez la trame de commentaires de Batman the Movie. Parce que Adam West et Burt Ward la font en personnage. Fait que la première ligne du commentaire, c'est « Look, Robin, a movie! » C'est extraordinaire. T'en avais d'autres dessins?
Rapidement.
Il y en a plein.
Mais c'est ça, moi, ce qui m'avait plus marqué, c'est vraiment John Hurt et Bill Paxton.
Paxton, c'était rough, parce qu'il avait fait un Mark Maron comme deux ou trois semaines avant. Il était super correct.
Ah oui, mais c'est ça, quand ça tombe de façon aussi tragique, c'est toujours un plus gros choc que quand la personne, par exemple, que John Hurt était quand même assez âgé.
Puis
ou
il a été magané depuis 88. Ouais, mais là, John Hurt, c'est pas... Mais puis aussi écouter le Maron de la semaine d'après, où lui-même, Mark Maron, réagit au fait que, tu sais, il est comme, OK, ben, mon invité s'en vient, la chaise est là, Bill Paxton, il était là, la semaine dernière. Puis c'est vraiment un moment de ça, je l'ai roulé, cette air-là, c'est un moment de balado-diffusion de podcasting vraiment important pour moi. Non, c'est vrai, c'est sûr.
Voilà.
Okay, et parlant, c'était ça mon truc, c'est vrai, le ça m'a comme connecté. C'est, oui, OK, bon, je vais assumer le fait que l'émission est décousue à cause de moi.
Mais je correct, c'est sûr que ça fait partie un peu de la personnalité de Pop en Stock.
Je vais pointer le doigt, c'est aussi ta faute.
2017 était décousu, c'est de sa faute.
Ouais, exactement.
C'est la faute à 2017.
Le grand gagnant par rapport à l'imaginaire québécois, c'est la balado-diffusion. Je suis quoi?
Rien.
Ah ben là, tu peux pas faire des chuchuchuch en ondes et penser que tu vas t'en sortir. On va mettre la caméra sur toi tellement que c'est ce que tu mérites. La balado-diffusion au Québec, la 2017, ça a été une année assez exceptionnelle. Puis, on est à comme une demi-heure, ça fait que c'est le moment un peu de faire une tranche puis une plug. Là. Bon, ça fait 5 ans qu'on fait le podcast de Pop en Stock. C'est cette année qu'on a eu l'énorme explosion par rapport à notre auditoire, où qu'on a eu les commentaires, qu'on a eu les meilleurs collaborateurs, collaboratrices aussi. C'est comme assez extraordinaire. Megan qui est devenue animatrice. T'sais, c'est comme, c'est vraiment une année. Mais je constate aussi que, on est comme, sans dire que non, attends, je veux pas dire ça de cette manière-là. Ce que je veux, c'est me rephraser sur le fait que la popularité de de la consommation de la balado-diffusion au Québec est aussi tombé au moment où l'émission s'est comme placée dans qu'est-ce qu'elle essayait de faire. Puis je trouve ça très, très, très le fun.
C'est très important. En
fait. C'est ça. C'est, je suis juste comme, oh shit, c'est super le fun qu'on a enfin. Tu sais, on sait qu'est-ce qu'on fait ici, on sait à quoi qu'on sert, on sait toutes les collaborations ont l'air d'être totalement conscientes de qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Et ils sont très confiantes et confiants de qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter. Puis ça a comme tellement bien tombé au moment où tout le monde se met à écouter le balado. Ils sont comme, ah, ben, qu'est-ce qu'il y a de populaire au Québec? Puis on est comme, ben, t'écris populaire à Québec, puis tu te retrouves un peu sur le balado de la culture populaire, tu sais.
On est en haut de les. C'est juste à cause du mot-clé, en plus, c'est pas nécessairement.
Ben, non, parce que c'est aussi, tu sais, pour toutes les gens qui ont voté sur iTunes, ben, qui ont mis les notifications sur iTunes, les gens qui ont écrit des commentaires, ou, tu sais, on s'est retrouvés dans un perfect storm, pour citer Wolfgang Peterson. Puis c'est super le fun, puis je trouve que la forme de la balado peut aider, puis tu sais, pour mettre une continuité par rapport à ce qu'on disait en 2018, c'est vraiment une forme concentrée d'information qui aide le développement de l'imaginaire, puis le développement de qu'est-ce qu'on pense qui est possible, qu'est-ce qu'on croit qui est impossible, qu'est-ce qu'on veut défaire dans l'impossible, puis pas penser ça qui est un peu là pour tout le temps conserver l'imaginaire dans la meilleure position possible. Fait que c'était comme
d'y réfléchir, mais en même temps d'essayer de l'amener plus loin, de d'amener aussi les gens à réfléchir un peu comme qu'on le fait.
Je me rappelle plus, mais je pense que c'est Julien Paré-Sorel qui m'avait raconté que tu peux pas, quand tu parles d'un domaine, tu peux pas, tu peux faire du tort, mais tu peux juste faire du tort à ta barque. Quand tu parles d'un domaine, tout ce que tu fais, c'est de mettre de l'eau où le niveau monte. Fait que tu fais juste mieux flotter les bateaux de tout le monde. Quand tu parles en positif, t'es en train de rajouter de l'eau dans la mer. Puis quand tu parles en négatif, t'es en train de faire un trou dans ta barque. Puis, Julien, plein de sagesse, là, mais celle-là, ça m'a vraiment fait comme, OK, ben, voilà la vocation, tu sais.
C'est vraiment une belle image.
C'est ça, on est juste là à comme mettre de l'eau dans la mer pour que tout le monde, pour que le niveau d'eau et le niveau et le développement et la qualité de la conversation augmentent, tu sais. Puis c'est ça, essentiellement, qu'on fait. Puis, bon, c'est un peu cucu, mais on est en plein milieu 2017, ça vaut quand même la peine de le mentionner. Merci à tout le monde de continuer à faire ce que vous faites, que ce soit les collaborateurs qui nous écoutent actuellement, ou que ce soit les auditeurs, les auditrices, et tout le restant du monde.
Producteurs, productrices de contenu.
Ouais, c'est ça.
Tout ça qui permettent à la culture populaire de se renouveler, mais pour le meilleur aussi.
Ouais, vous êtes comme...
Ouais, je trouvais ça intéressant de ce que tu disais par rapport à Jerry Lewis, puis comment permettait de créer des communautés justement par le biais du cinéma, mais par le biais de l'imaginaire plus largement. Puis c'est un peu ça que ça fait, la culture populaire. Puis c'est un peu ça que ça a permis de faire en 2017, à mon avis, c'est que en ouvrant le dialogue à plus de diversité, ça fait juste créer une plus belle et plus grande et plus riche communauté par le biais de l'imaginaire et par le biais de toutes ces nouvelles œuvres là qui surgissent. Et aussi, on s'entend, c'est une culture de consommation, mais quelle culture de consommation et de célébration de qu'est-ce qu'on est en tant que société? En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir.
Ben oui, c'est ça. Puis, ouais. Elle nous sert autant qu'on la sert.
Voilà.
Fait que ça devient très... on finit par avoir une culture pop que l'on désire plus rapidement qu'avoir un monde qu'on désire. Mais c'est en...
Non, mais je pense que ça l'évolue un peu le main dans la main, là, au sens où...
Oui, c'est ça, mais elle prend plus de temps. Le monde prend plus de temps à changer que la culture, disons.
Oui.
Puis 2017 a été comme une belle année de façonnage pour la culture. Fait que ça peut juste bien augurer pour 2018. Mais je touche du bois comme as fuck, là.
Ah oh, oui, bien là, c'est de la mélamine, mais je sais pas.
Non, j'ai du bois, moi. J'ai du bois, je le sens ici, là. Il est là, là. Micro.
C'est du bois, ça fait penser toute cette positivité, parce que je regarde ma liste de choses que j'avais notées.
Dis-nous des beaux trucs.
Ouais, j'en parlais un peu avant d'arriver en onde, mais 2017, en tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup les memes. Puis 2017 était l'année des wholesome memes, alors que 2016, c'était l'année des memes sur la dépression. C'est très déprimant. En octobre, novembre 2016, c'est vraiment une vague de montée de ces memes-là qui valorisent toute la positivité et l'amour et l'amitié et les relations saines. Et en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça a vraiment changé la vision que j'ai du monde et de moi-même. Puis c'est par le biais de cette culture-là de memes, qui est une culture excessivement populaire, participative et culture de fans et compagnie. Puis je trouve que ça représente bien une espèce de mentalité plus positive qu'on a de 2017 versus 2016, où tout le monde était vraiment comme complètement déprimé en décembre 2016. C'est-à-dire, c'est la pire année de toute ma vie. Puis il y a ce changement-là. Ouais. De mentalité que je ressens plus, mais peut-être que parce que je consomme des wholesome memes comme à pocheter, là, mais c'est comme moi, je me sens bien, mais tout le monde se sent comme la merde.
Mais c'est vrai que le...
Secret contre la dépression.
Mais pour vrai, c'est... Moi, je trouve que c'est ça, parce que vu qu'on consomme beaucoup de culture, parce qu'on travaille là-dedans aussi, ouais. Mais les gens, en général, en consomment beaucoup, d'avoir une culture qui est constructive et positive, ça a un impact sur notre vie personnelle et sur la manière dont on conçoit le monde et la société et nos communautés. Et nos relations interpersonnelles.
Et en changeant notre intérieur, on agit de façon plus positive. Ça fait que concrètement, ouais. Ça a des retombées sur le monde concret.
Puis je trouve que c'est, les wholesome memes, c'est, moi, c'est mon symbole de 2017. Là. C'est la meilleure manière de, je trouve, de voir l'année.
C'est fantastique. Oui. Je fais juste espérer que le monde va comme te suivre là-dedans. Là.
Mais allez liker la page Facebook qui s'appelle Wholesome Memes. Là, pour vrai... C'est un petit peu de bonheur dans ton quotidien parce qu'on regarde assez Facebook pour que ça nous hante, ça nous empêche de travailler, mais tu sais, tant qu'à faire, on va le rendre ça.
Ben, c'est ça, ça va devenir comme un petit générateur de dopamine. Là.
Mais moi aussi, j'ai liké la page. Je pense que c'est ma première page de mime que j'ai liké parce que je suis pas une très grande fan de mime, mais maintenant, je connais Manon Grenier et tous les autres mimes. Mais j'ai passé par les mimes réconfortants pour pouvoir m'intégrer à la culture un peu plus violente, comme tu disais. On dirait que moi, c'était trop. J'avais assez ma tête pour me dire ça. J'avais pas besoin de mimes. Mais on sent peut-être, justement, une envie de fuir dans l'imaginaire. Peut-être, comme tu disais, que Jean-Michel, que l'imaginaire est plus positif que la réalité. Mais si on regarde les pages de mimes plus positives, gagnent en popularité. Au Salon du Livre, les éditeurs indépendants ont vendu plus que dans toutes les autres années avant et ils se demandent pourquoi, qu'est-ce qui a changé, parce que le nombre de personnes qui ont rentré au Salon du Livre est à peu près, grosso modo, le même. Donc, on sent qu'il y a comme un désir, peut-être, de fuir dans des imaginaires qui nous offrent une meilleure perspective que la il rit de mes gestes.
Non, pas du tout, pas du tout. Non,
c'est bien content. On dirait que je lance des sorts.
Non, c'est ça, j'ai comme plein... C'est des parenthèses et des astérisques mis ensemble. Je suis comme...
Tu mets des notes en bas de page.
Exactement. J'ai pas... Tu vois, je suis totalement... Non, je suis partiellement d'accord avec toi. Je peux pas être totalement d'accord avec toi parce que je suis comme... je suis partiellement d'accord avec toi. Non, la seule chose que je ferais comme une espèce de petite distinction, c'est pas fuir. Je pense que c'est construire. J'ai l'impression qu'on veut construire un meilleur imaginaire. On a compris. Tu sais, fuir, c'est vraiment comme puis s'en aller, puis se cacher. C'est ça. Moi, je vois plus comme une espèce de comme ça, c'est de la merde. Allons voir ce qu'on est capable de faire de ce côté-ci. Moins que de la fuite. 2016 était beaucoup plus en fuite. Dans l'espèce d'évitement, dans l'espèce de comme « Ah, ces choses-là me font mal », tout. Là, c'est comme « OK, ce terrain de jeu-là fonctionne pas pour moi, celui-là non plus. Voyons voir qu'est-ce que je peux faire dans celui-ci. »
Je pense que ça a aussi rapport avec on en parlait au début de l'émission, le mouvement, c'est ça, depuis l'élection de Donald Trump, il y a un mouvement...
Donald! Merci.
Il y a vraiment un mouvement comme... On a décidé de prendre les armes et les cartons et les affiches et de prendre action au lieu de juste chialer puis de dire que le gouvernement est corrompu. Il y a comme tellement une grosse menace en ce moment politique que les gens ont décidé justement de prendre action, de construire ces choses-là. Puis la fiction, c'est une espèce de sandbox où on peut tout essayer de voir, c'est surtout la science-fiction, par exemple, où on peut essayer d'imaginer des mondes meilleurs, où il y aurait des héroïnes et des... Oui. Les Wakanda et compagnie. J'ai tellement hâte de voir Black Panther.
2018, ça se concrétise.
Ouais, c'est ça. Ben c'est notre sandbox où on peut essayer des choses, et ces choses-là, si on les imagine en train de fonctionner, après on peut essayer de prendre action dans le monde réel et d'être plus concret, là.
Ouais, mais même, tu vois, prendre les films de DC comme exemple, tu sais, comme laboratoire, tu sais, tout ce qui est DC à orientation masculine a échoué lamentablement. C'est incroyable, tu sais. Puis là, ils ont, suite à cette espèce de moment vraiment trop tard, là, de rencontre au sommet où tous les producteurs puis les exécutifs de Warner sont comme « All right, fait que Batman, Superman, ça chie. » solide. Regarde, tu sais, ah ben, checks and balances. Bon, regardons ce qui se passe ici. Ah, ben, c'est drôle quand tu prends une figure forte féminine. OK, ben, je pense qu'à ce point-ci, on a assez mangé une volée, mm-hmm. De la part des critiques, mais aussi de la part du box-office, que, hey, regarde, on a réussi ça vraiment comme il faut. Voyons voir si on est capable d'altérer l'entièreté de notre propos de ce côté-là. T'sais, puis vraiment reprendre, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Ils sont en train de refaçonner les choses à venir.
C'est ça qu'on peut faire émerger la critique de ah, ils sont en train d'instrumentaliser le mouvement féministe pour faire de l'argent. Oui, mais si ça fonctionne pour diversifier le discours, moi je vois pas le problème.
Mais c'est
là-dedans.
Ça, c'est ça en même temps, t'sais, c'est de dire ben on a réussi ça comme il faut, faisons ça plus souvent.
Ben la culture populaire a toujours fonctionné comme ça, de toute façon on instrumentalisait à gauche puis à droite, puis c'est comme ça que les choses finissent par ressortir.
Le mouvement indépendant de passe dans le mainstream et les idées qui étaient partiellement les idées partiellement véhiculées par ce mouvement indépendant là finissent par passer dans le mainstream et c'est comme ça qu'on avance à pas de tortue très lentement.
Ouais, puis je pense que bon, malgré que tout le capitalisme et tout là, je pense quand même qu'on est moins dans une imaginaire de la récupération des idéologies politiques comme ça a pu l'être à une certaine époque, mais qu'on est dans une prise de conscience de chacun comme spectateur, spectatrice, mm-hmm. comme auditeur, auditrice, on sent, moi, en tout cas, je trouve qu'on sent, puis quand on regarde les mouvements comme MeToo, dont on parlait un peu plus tôt, on sent que les gens prennent conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir pour changer des choses, puis pas à un niveau politique macro comme dans une élection américaine où
les gens sont un peu désabusés depuis, là.
Puis où les résultats sont catastrophiques, mais dans des plans culturels où tu te dis qu'en tant que consommateur ou peut-être parce que les cultures plus marginales ou l'autoproduction ou les autopublications sont de plus en plus possibles, de plus en plus foisonnantes, on a de plus en plus le choix de ce qu'on regarde, que là le mainstream n'a pas le choix de suivre si on veut, parce que sinon les gens ont tellement d'autres possibilités de consommation.
Et même que je pousserais sur le fait que l'indépendant a réalisé qu'il était capable de faire des choses que le massif, l'omniprésent était pas capable de faire. Puis je pense que tu voulais, ou du moins je pense que on peut travailler ensemble vers parler de Carl Bessette.
Ah, c'était pas ça mon objectif, mais on peut.
Mais tu sais, c'est ça, c'est que on
Oui, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que des domaines plus marginaux qu'on associe tantôt à l'élite culturelle, tantôt à quelque chose qui ne concerne pas du tout le mainstream, a réussi à faire... Mais je vais laisser Stéphanie en parler plus parce qu'elle connaît vraiment mieux le sujet que moi. Là,
on dirait que le micro, il pue tout d'un coup. Elle a comme fait... Moi, il fallait juste que je dise Carl Bessette parce que je me trompe souvent publiquement sur son nom de famille. Il fallait que je me reprenne là-dessus. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais, c'est ça. C'est que, pour reprendre l'exemple, les éditions de l'Écrou ont réussi à orchestrer le plus long.
C'est pas les éditions de l'Écrou.
OK, merci.
Parce que c'est Carl Bessette qui est éditeur, qui est fondateur des éditions de l'Écrou.
Merci.
Mais il l'a fait avec Quinca, Frank Poole, qui est un slammer de Sherbrooke, et Baron Marc-André Lévesque. Bon, c'est l'initiative de Carl Bessette. Ce dont vous êtes en haleine de vous demander de ce dont on parle, c'est Cœur ouvert, qui est le plus long micro libre au monde de poésie, c'est-à-dire que pendant 9 jours, 24 heures sur 24 au Sporting Club, une personne a pris la parole au micro et il n'y a pas eu plus de 30 secondes de silence entre les lectures de poésie. Bon, poésie au sens large, ça pouvait être une lecture de roman, de Nietzsche, de ce que vous voulez.
De livres de cuisine.
De livres de cuisine. Oui. Excellente.
Marise.
Oui, qui a lu du Johan Benoît.
Merci, Marise.
C'était... incroyable.
Puis il y a, mais c'est vrai qu'il y a une considération dans ce genre d'événement. Il s'inscrivait dans le Festival international de littérature, qui est un événement très institutionnel de littérature qui rejoint les élites, mais aussi les gens de toutes les cultures, parce qu'ils essaient de faire des événements de vulgarisation, si on veut. Mais là, on permettait aux spectateurs de devenir poètes d'un moment, poètes de deux moments, ils pouvaient revenir quand ils voulaient. Et Carl Bessette y tenait Mordicus, parce que au départ, c'est censé être un record Guinness, mais les règles de record Guinness, c'est qu'il faut absolument que ce soit des textes publiés. Ce à quoi il a renoncé. Il a décidé que non, lui, il voulait que tout le monde puisse prendre la parole, lire des textes qui n'étaient pas nécessairement publiés. Donc, il a décidé de faire un record sans...
Informel,
sans recevoir la matriculation record Guinness. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que lui-même est éditeur, donc on sent peut-être une contamination entre les... En tout cas, moins une division entre le mainstream puis le underground, le populaire... Et pas seulement ce qui est consommé en masse, mais aussi ce que tout le monde peut produire au quotidien.
Mm-hmm. Puis cette initiative-là a fait en sorte qu'énormément de gens qui n'avaient jamais lu en public se sont forcés à le faire. Il y a une reprise des moyens, pour être très marxiste ici, il y a une reprise des moyens de production, tu sais. C'est comme...
Oui, parce que tu pouvais lire à peu près n'importe quoi. Tu pouvais lire quelque chose qui était déjà écrit, c'est ça, tu pouvais lire un livre de cuisine, tu pouvais lire des choses qui étaient écrites sur Internet, tu pouvais lire tout ce que tu voulais, là.
C'est ça, puis du matériel, il y en a en masse.
Oui, puis aussi de le lire sur une scène de open mic, ça lui donne une espèce de portée qu'il n'avait pas en tant que livre de cuisine ou que mime sur Internet, par exemple. Donc, on dirait que ça transforme le texte, puis c'est la performance. Tu crées un nouvel objet culturel qui était ni le livre, ni les mots qui sont utilisés. C'est vraiment une performance. Ouais. Puis je pense que tu l'as très bien fait, Jean-Michel, quand t'es allé à cœur ouvert.
Pour la première fois.
Non, c'est pas vrai, ça.
C'était incroyable.
Non.
On va quand même mettre en contexte pour les auditeurs qui
non
te plus. Suivent depuis des années.
Non, il nous reste juste 5 minutes à l'émission.
En une minute, on va pouvoir expliquer les grands exploits de Jean-Michel.
Pas que je contrôle les micros.
J'entends tout le monde... J'entends tout le monde chez eux dire « On veut savoir! »
Non, mais c'est parce que c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la performance, parce que un des films qui va clore 2017, c'est « Disaster Artist ».
Oui, mais en même temps, moi, je tiens vraiment à dire à tout le monde qui nous écoute.
Non, ça, c'est pas
ça va mal finir.
Ça va finir, ça va être tout moi. Maintenant, on parle de.
Non, mais c'est ça. Ouais, en plus, j'ai des photos, je peux les publier sur Facebook.
C'est déjà fait, là. Mais...
Ouais, je peux en les republier, là, les gens sont curieux. Non, mais c'est ça. T'as fait une série de poèmes sur la Justice League qui t'a performé de façon incroyable. Mais moi, je trouve que c'est une rencontre entre cette espèce de culture mainstream-là qui est ultra industrialisée. Tu l'as dit à quelques reprises. Depuis le début de l'émission, DC Comics au cinéma, ça allait pas très bien, mais je trouve que...
Je t'entends pas. J'ai coupé les casques.
T'as juste coupé ton casque.
Oh, ouais, focus.
Mais c'est ça, donc t'as fait une série de poèmes sur la Justice League et tu as performé chacun des poèmes qui étaient sur chacun des super-héros.
On va l'écouter Dale Hawchuk, tout le monde.
De la persona un peu des personnages. Puis moi, j'ai trouvé ça incroyable. Tu as fait Batman juché sur un tabouret avec un masque, Flash en parlant très très vite. Donc, je trouve que c'était un moment quand même assez fort de cet événement-là où, c'est ça, culture mainstream, culture pop, geek, fan, a rencontré la poésie, a rencontré la performance et la culture un peu plus, justement, participative. Homemade.
Mais si justement on veut ramener sur la reconstruction essayer d'aller vers ailleurs,
ouais,
mais c'est sûr
ça.
Que faire du cosplay de poésie, c'est aller vers ailleurs. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et d'ailleurs, j'ai la vidéo complète si quelqu'un veut me le demander en commentaire Facebook, je lui envoie. Mais en dehors de ça, Carl, il voulait quand même, c'est assez très clair son objectif, c'était de passer à autre chose, de s'éloigner de la nuit de la poésie qu'on avait eu l'impression qu'elle avait appartenu à tout le monde, qui était rentré dans l'imaginaire. Mais qui était quand même une anthologie des grandes figures de la poésie pour aller vers un événement de poésie qui est de plus en plus populaire, c'est-à-dire le micro ouvert, où tout le monde peut créer. Puis moi, peut-être que c'est ce qui me marque de 2017, c'est pas cette volonté de faire-là parce qu'elle n'est pas nouvelle, mais cette acceptation-là, ou en tout cas cette mise en valeur-là par les médias mainstream d'une possibilité de créer, que tout le monde a de créer ou de changer des choses. Donc avec le mouvement MeToo, chacun a raconté sa propre narrative. Des agressions que ces personnes-là avaient vécues. Quand on regarde à cœur ouvert, c'est encore là la possibilité de soi-même créer ou du moins d'avoir un impact. Puis je pense que l'imaginaire est de plus en plus marqué par cette prise de parole ou par cette prise de conscience-là qu'on a, qu'on a une voix ou un corps ou quelque
voix,
chose.
Un pouvoir aussi.
Ouais. Mais moi, tout ça, en fait, ça me fait penser à ce qui serait ma figure clé de 2007. Le film de Patterson de Jim Jarmusch, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sorti ici en 2007. En 2016, française dans le reste du monde. Mais c'est ça, en fait, c'est un poète qui regarde autour de lui, qui regarde les gens qui vivent autour de lui, qui écrit des pièces, écrit des petits poèmes. C'est magnifique et c'est juste ça, en fait, c'est exactement ça, quelqu'un, tout le monde a le droit à son petit carnet de poésie, en regardant autour de lui, de produire.
Patterson,
oui, c'est magnifique. C'est, oui.
Mais c'est incroyable. Ben, ça, c'est mon petit dada. À quel point la poésie est devenue quelque chose d'un peu mainstream, parce que si on regarde dans The White People, il y a un moment où il y a un micro ouvert de poésie, puis là, bon, il y a des performances de personnes blanches qui veulent parler du fait qu'il y a eu une fusillade, que Noir a été menacé par un policier. Puis là, ils font des choses un peu ésotériques, vraiment ridicules, dont puis après, la personne qui a été elle-même menacée par le policier se met à lire un texte poétique d'une force incroyable. Et moi, j'ai été fascinée de voir que dans une série télé, il y avait un micro ouvert.
Oui.
Ça m'a complètement jetée à terre. J'ai dit, c'est OK. On en est là, tu sais, on en est là dans cette idée-là de chacun peut créer, chacun peut...
Et cette peut être publié. Justement, cette agentivité de création-là est représentée par la suite dans les œuvres plus mainstream, dans les fictions plus populaires au sens de masse. Là. Mm-hmm. Donc, il y a comme une espèce de circulation de tout ce discours-là qui était quand même assez important, je pense, en 2017. Puis, je pense que ça représente bien, oui, qu'est-ce qui est arrivé cette année.
Ouais. Je voulais comme clore avec ta figure, toi. Pour 2017, on a Patterson, on a...
Ah, mais moi, je l'ai dit tantôt, c'est les wholesome memes.
Ah, ouais, c'est vrai. OK, bon, j'en ai pas.
T'en as pas, ben là, t'aurais pu y penser.
J'aurais pu y penser. J'aurais pu aussi dire que Die Hard, ouais, qui a été un leitmotiv à toute l'émission, essentiellement. On a parlé de Die Hard à toutes les 7 minutes, pour les gens qui s'en ont pas rendu compte, a été rajouté au registre national du cinéma.
Ah, ouais.
Gremlin aussi, non? C'est pas ça?
Goonies.
Goonies, c'est ça, Goonies. Ouais.
Ouais, Goonies et Titanic. Donc, c'est devenu des monstres sacrés du cinéma. Des films qui existeront pour toujours. Puis, ça peut représenter quelque chose, c'est qu'on a aussi, en quelque sorte, sacré des objets qui étaient mal aimés à leur époque, puis qui sont maintenant comme... qui ont été assez revendiqués comme des classiques, qu'on est capable de dire comme non.
Mais dont l'influence est assez importante pour être prise en considération aujourd'hui, même si c'est pas considéré comme du cinéma au sens classique.
Non, c'est des grands films.
C'est quand même des grands films qui ont une très grande influence sur qu'est-ce que le cinéma est devenu aujourd'hui et qu'est-ce qu'il deviendra dans le futur.
Et même aussi, si on parle de Titanic, des trames sonores aussi, il faut toujours souligner l'immense travail de Diva Céline Dion. Shit, man.
Céline,
I'm all about it. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui a perduré en 2017 plus que n'importe qui au monde, c'est Céline Dion.
Mais Céline, cette année, a fait un beau comeback.
Sérieux?
Fashion et
tout.
Ah oui, son comeback fashion, c'était assez impressionnant. Là. Moi, j'ai écouté la vidéo 25 fois.
Hey, je suis content qu'on termine là-dessus. Sur les habillements, les habits neufs de Céline Dion. C'est tellement extraordinaire. Okay.
Est-ce qu'on est poche et on fait nos résolutions pour 2018?
On est du poche. Moi, je pense qu'on est capable.
Est-ce que vous avez des résolutions? Avez-vous réfléchi à ça?
Wow!
Aller au gym? boire plus de bulles de nuit?
Je boirais définitivement plus de bulles de nuit. En fait, ce que je vais admettre, c'est que le poids des résolutions dans les dernières années a été très, très, très difficile à entretenir.
Les résolutions, c'est toujours difficile à entretenir.
Ouais,
mais avez-vous des projets, par exemple? Quelque chose que vous aimeriez réaliser? Par exemple, je vais y aller avec le mien.
Vas-y.
Quand j'étais dans le sud récemment avec Roxane Chartrand, a.k.a. Janeway, qui est venue ici à l'émission parfois. Et vu qu'il n'y avait pas d'Internet et que j'avais pas grand-chose à faire, j'ai commencé à écrire de la poésie de Club Med. Fait que mon objectif pour 2018, maintenant je le dis à la radio, tout le monde le sait, c'est de publier un zine avec ces poèmes-là.
OK.
Avec elle. C'est comme contractuel, j'ai plus le choix de le faire, tout le monde va l'attendre.
Ouais, ben dans la même veine, je pense qu'il y a beaucoup de travail suite à Terroir Terreur que j'ai fait pour ta mère, de faire peut-être une version un peu plus longue, un peu plus étoffée pour faire un whole Newton universe de la littérature terroiriste au Québec. Fait que je pense que ça serait le truc que je pourrais me promettre de faire en 2018.
C'est bon.
Consolider l'univers de la littérature du terroir en un seul roman.
Yes.
Cohérent et fonctionnel. Dans lequel il y aurait l'apparition de l'étoile de John Dee dans la constellation de Cassiopée, qui a amené, ou qui a présupposé, ou qui a préfiguré la montée de l'Empire britannique, puis que ça pourrait culminer sur la montée de l'Empire québécois, tout en n'étant pas très séparatiste.
Espérons que ça pas de sens.
Je pense pas. Ouais, un peu comme l'émission, tu sais, je pense pas que je pouvais partir de façon très cohérente. Sylvain?
Moi, je vais être bien content de finir mon mémoire, déjà.
Moi aussi!
Ah, ben voilà, ouais. De belles résolutions.
Puis, si... Ça fait longtemps que je veux écrire sur Arnold Schwarzenegger comme quelque chose de sérieux. Fait que si j'ai le temps, si je finis mon mémoire assez vite, ça serait ouais, c'est ce que je veux faire.
2018 va quand même voir l'apparition de ta communication que tu as faite sur la journée durant la journée d'études de Pop.
Oui, mais comme quelque chose de plus large.
C'était,
que,
c'était fort. Ouais. C'était déjà très fort.
Merci.
Ouais,
c'était tellement le fun.
Ouais, qu'on va relayer pour que les gens puissent comprendre de quoi on parle. C'était vraiment, vraiment pas pire. Ouais. Stéphanie, toi aussi, c'est mémoire de maîtrise?
Ouais, finir les 18 projets que j'ai en cours et quitter le Québec.
Quitter le Québec.
Ah, non.
Pour des ailleurs.
OK.
Pour des voyages.
OK, c'est bon. Ouais. Fait qu'on va aller écouter Cascade Falls de Eyes Might Wander, parce que je sais pas exactement c'est quoi, puis j'espère que c'est bon. Mais de toute façon, vous allez l'écouter pendant 14 secondes.
Bonne année!
Passez une très belle... Ouais, ben oui, c'est ça. Merci beaucoup aux collaborateurs, merci aux auditeurs, merci à tout le monde en général. Et, hey, shit, ben...